Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وذق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 28 Ordibehesht, 1402 du calendrier iranien, 18 mai 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique portant sur le discours du leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei. L'Iran a fermement condamné les accusations proférées par le G7. Le président Raïsi appelle l'Afghanistan à respecter le traité de 1973 à propos de Hirmand. L'Égypte, sous la pression de Tel Aviv, pour ne pas rétablir ses relations avec la République islamique d'Iran. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. L'Iran a fermement condamné une accusation portée par les dirigeants financiers des pays industriels, membres du G7, les exhortant à mettre fin à leur complicité dans les sanctions illégales des États-Unis contre Téhéran. Dans une déclaration conjointe, après la réunion de 3 jours à Niigata, au Japon, les ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des pays membres du G7 ont exprimé leur inquiétude concernant toute transaction financière avec l'Iran et ses risques. Nous condamnons fermement cette partie de la déclaration des ministres des Finances du G7 qui porte une accusation totalement non fondée et délirante contre la République islamique d'Iran, a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne Nasser Kanani. Il a exhorté le petit groupe de pays qui tentent d'imposer leurs désirs aux autres à cesser de suivre les sanctions illégales des États-Unis qui ignorent les principes fondamentaux du droit international et des droits de l'homme contre la grande nation iranienne. Le président iranien a exhorté l'administration au pouvoir en Afghanistan à fournir rapidement à l'Iran sa part d'eau provenant de la rivière Hirmand, également connue sous le nom de Helmand. S'exprimant ce jeudi 18 mai, en marge de la cérémonie d'inauguration d'un certain nombre de projets d'eau et d'électricité dans la province iranienne du Sistan et Baloutchistan qui borde l'Afghanistan, le président Ebrahim Raïsi a averti que Téhéran ne tolère pas une violation des droits des habitants de cette province iranienne. Je dis aux dirigeants afghans de ne pas prendre mes propos à la légère, a-t-il affirmé. J'avertis les autorités de l'Afghanistan de respecter rapidement le droit du peuple de la province iranienne du Sistan et Baloutchistan. La rivière Hirmand, le plus long cours d'eau d'Afghanistan. Un média israélien a révélé que le régime de Tel Aviv faisait pression sur l'Égypte pour qu'elle ne rétablisse pas ses relations avec la République islamique d'Iran. Pourtant, l'Égypte et l'Iran sont engagés dans des négociations en Irak et sont sur le point de rouvrir leurs ambassades respectives. Dans un rapport publié mercredi 17 mai, le quotidien Yediot Aharonot a rapporté que des délégués israéliens se rendaient secrètement au Caire et tentaient de dissuader le gouvernement du président Abdel Fattah al-Sisi de prendre des mesures réciproques pour raviver les liens avec Téhéran dans le cadre d'un rapprochement régional. Cette révélation est intervenue quelques jours après que le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que Téhéran se félicitait du développement des relations avec le Caire et espérait de nouvelles mesures mutuelles pour améliorer les relations bilatérales. Pendant ce temps, un membre de la Commission de la Sécurité nationale et de la politique étrangère au sein du Parlement iranien a confirmé que des négociations étaient en cours en Irak entre les délégués iraniens et égyptiens. Un grand nombre de colons israéliens, épaulés par les militaires du régime de Tel Aviv, ont fait irruption dans la mosquée Al-Aqsa lors de la soi-disant marche du drapeau. Des dizaines de milliers de colons israéliens sont attendus ce jeudi 18 mai à Quds orientale occupée pour célébrer la prise de la partie orientale de la ville sainte en 1967. Une marche vécue comme une provocation pour les Palestiniens à laquelle plusieurs ministres extrémistes du cabinet de Benjamin Netanyahou ont prévu de se rendre. Les colons devaient se rassembler dans la ville de Quds pour observer l'événement. Pendant ce temps, l'autorité palestinienne a averti que la tenue du rassemblement alimenterait les tensions dans les territoires occupés et aurait des conséquences désastreuses. Il a déclaré qu'Israël serait entièrement responsable de toute escalade résultant d'une telle marche. L'autorité autonome palestinienne a ajouté que Quds occupée resterait la capitale éternelle de l'État de Palestine. Le mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, a également dénoncé la marche, la qualifiant de tentative ratée d'Israël pour mettre en œuvre ses plans racistes de judaïsation. Des alertes aux raids aériens ont été déclarées sur l'ensemble du territoire ukrainien tôt ce jeudi et l'armée ukrainienne a mis en garde contre d'éventuelles frappes de missiles russes dans les régions du centre de l'Ukraine. Les alertes sont intervenues après que les frappes russes ont secoué à nouveau la capitale Kiev et d'autres régions. L'armée ukrainienne a signalé plusieurs explosions dans la capitale. Des raids aériens ont également déclenché deux incendies dans les quartiers est de la ville. Aucune victime n'a été signalée à Kiev, mais les autorités affirment qu'une personne a été tuée et deux autres blessées après qu'un missile a touché une installation industrielle dans la ville portuaire d'Odessa. L'armée ukrainienne affirme qu'il y a également eu des attaques de missiles de croisière dans la région centrale du pays. De nouvelles frappes aériennes ont incité les autorités à émettre des alertes dans les régions du nord, du sud et de l'ouest. Les habitants ont été invités à rester dans des abris. Alors que la guerre est entrée dans son premier mois dans leur pays, des centaines de partisans de l'armée sont descendus dans les rues pour exiger le départ de l'envoyé spécial des Nations Unies au Soudan. Volker Pert, devenu persona non grata, est accusé par les partisans du général Al-Burhan de jouer la carte de la division. Nous avons demandé que Volker, l'envoyé de l'Organisation des Nations Unies au Soudan, soit démis de ses fonctions, a déclaré le secrétaire politique du Conseil de Béja. C'est dans ce contexte que l'Organisation des Nations Unies a tiré la sonnette d'alarme sur le plan humanitaire. Un Soudanais sur deux a besoin d'aide, le chef du bureau de l'Agence humanitaire des Nations Unies réclame environ 3 milliards de dollars. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a reçu en audience, mercredi 17 mai, les responsables chargés d'organiser la participation des pèlerins iraniens au rituel annuel du Hajj. Au cours de cette réunion, l'Ayatollah Khamenei a souligné l'importance du Hajj en tant qu'événement mondial et éléments civilisationnels. Le leader de la révolution islamique a souligné l'importance du pèlerinage annuel du Hajj et a appelé à la compréhension profonde de cette obligation religieuse. Le Hajj est une question mondiale et civilisationnelle dont le but est la poursuite du développement et du progrès des nations musulmanes, le rapprochement des cœurs des croyants et l'unification de l'Oumma islamique contre l'incrédulité, l'oppression, l'arrogance, les idoles humaines et non humaines, a déclaré l'Ayatollah Khamenei. Se référant à des versets du Noble Coran, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a affirmé que la Kaaba était source du progrès et de la stabilité de toutes les sociétés humaines. Il a également évoqué les bienfaits matériels et les avantages spirituels de l'accomplissement du Hajj par les musulmans. Sans le Hajj, l'Oumma islamique s'effondrerait, a-t-il déclaré. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a insisté par la suite sur l'aspect international du Hajj, qui est une invitation divine à tous les peuples à accomplir ce grand pèlerinage annuel. L'un des nombreux avantages du Hajj est qu'à l'occasion de ce grand rassemblement annuel, les musulmans du monde entier affichent leur puissance, expriment leur opposition au régime sioniste et défie l'influence des puissances arrogantes et de tous les oppresseurs, a ajouté le leader de la révolution islamique. Selon l'honorable Ayatollah Khamenei, le monde musulman doit profiter du rassemblement annuel du Hajj pour envoyer un message fort au régime israélien et aux puissances hégémoniques. L'honorable Ayatollah Khamenei a souligné que la participation au rituel du Hajj était aussi une occasion pour que les musulmans partagent leur point de vue au sujet des grands problèmes mondiaux, y compris les tristes événements qui se produisent en Palestine. Le leader de la révolution islamique a affirmé que le rassemblement des musulmans qui viennent des quatre coins du monde rejettent en soi les divergences et les conflits qui puiseraient leurs racines dans le racisme ou la lutte des classes. l'honorable Ayatollah Khamenei a réitéré que le peuple et les responsables iraniens devaient être très attentifs aux complots, aux méthodes et aux politiques des ennemis de l'Iran islamique et d'en connaître les points forts et les points faibles pour mieux contrer l'animosité des ennemis. Si nous sommes conscients des problèmes du monde, nous serons également en mesure de comprendre les véritables objectifs de nos ennemis et la raison de leur insistance obstinée sur certains points, a déclaré le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei.
Bonjour à tous, bienvenue ici dans les studios de Presse TV, dans la capitale iranienne, Téhéran. Aujourd'hui, le sujet du jour étant le jour de la catastrophe, le jour de la Nakba, 75e anniversaire, triste anniversaire qui représente la catastrophe de tout un peuple. C'est le sujet du jour. Pour ce faire, nous allons, comme le veut le débat, faire venir deux invités après le reportage que nous avons préparé. Nos deux invités du jour étant Monsieur Amrouni et Monsieur Luc Michel, tous deux experts en questions géopolitiques. Tout de suite, je vous propose donc le reportage qui fait un point sur la situation, sur cette semaine de la Nakba, sur les différentes réactions qu'il y a eu de par le monde, et notamment, c'est la première année où l'ONU organise et accepte de reconnaître la Nakba comme la journée de la catastrophe. Tout de suite donc, le reportage.
Le ministère iranien des Affaires étrangères a publié dimanche 14 mai un communiqué à l'occasion du 75e anniversaire de la création illégitime du régime israélien connu parmi les Palestiniens comme le jour de la Nakba, catastrophe. Dans le communiqué, l'Iran a affirmé sa solidarité avec le peuple palestinien et sa cause légitime pour libérer les territoires occupés et établir un État indépendant avec la ville de Rots comme capitale. Le ministère a déclaré que tous les plans politiques présentés au cours des trois dernières décennies n'ont abouti à aucun résultat en raison de leur négligence des causes profondes de la crise. Le communiqué a réitéré une fois de plus la solution démocratique de la crise, solution qui est basée sur le retour de tous les réfugiés palestiniens dans leur patrie et la tenue d'un référendum avec la participation de tous les habitants originaires de la Palestine, y compris les musulmans, les chrétiens et les juifs, pour déterminer leur propre destin et leur système politique. Le ministère a condamné les crimes commis par le régime sioniste ces derniers jours contre les habitants de Gaza, qui sont assiégés depuis plus de 18 ans dans la plus grande prison à ciel ouvert du monde, soulignant que ces actes criminels constituaient une violation flagrante du droit international et des droits de l'homme.
Alors nous revoilà sur les plateaux, tout de suite donc la venue de nos deux invités. Nous commençons par Monsieur Amrouni. Bonjour Monsieur Amrouni et bienvenue sur les plateaux de Presse TV.
Bonjour à vous et à votre invité, à tous les téléspectateurs.
Merci à vous. Alors notre deuxième invité, comme l'indiquait plus tôt Monsieur Luc Michel, également géopoliticien, notre expert notamment sur le système panafricain. Bonjour Monsieur Luc Michel.
Bonjour Monsieur Luc Michel. Bonjour à vous, bonjour à vos téléspectateurs et à vos collègues, bien entendu. C'est toujours un plaisir de vous retrouver.
Merci. Alors, Monsieur Amrouni, nous allons commencer par vous. Cette semaine représente la semaine de la catastrophe, une semaine triste qui représente des millions de réfugiés, des centaines de milliers de morts sur les années, sans parler des répercussions psychologiques et tout ce qui peut s'en suivre quand on pense au tragique incident massacre de la Nakba, où des centaines de villes de la Palestine donc, ont été prises par la force, sans aucun respect des droits humanitaires, sans aucun respect des droits internationaux, sans aucun respect tout court. Par contre, cette année représente donc la première année où l'ONU reconnaît donc, la journée de la Nakba, donc une petite différence, bien qu'à l'heure actuelle, la Palestine est confrontée à des attaques permanentes par l'armée sioniste. Monsieur Amrouni, que peut-on dire sur ce 75e anniversaire ?
D'abord, saluons le peuple palestinien, le courageux peuple palestinien qui lutte, qui résiste depuis 75 ans pour retrouver son indépendance, pour retrouver sa dignité, pour retrouver sa liberté. Cet anniversaire, comme vous l'avez bien précisé, c'est un anniversaire triste, pas simplement pour le peuple palestinien, mais pour la nation arabe et pour la nation musulmane. Depuis 75 ans, la nation arabe n'a pas pu être solidaire avec le peuple palestinien, aider le peuple palestinien pour retrouver sa terre natale. Donc cette catastrophe est doublement catastrophique pour le peuple palestinien d'abord et surtout pour la nation arabe et pour la nation musulmane que jusqu'à ce jour, elle n'arrive pas à reprendre les territoires sacrés de Jérusalem, Al-Quds, et donc que ce soit les musulmans ou même les chrétiens parce que cette histoire, elle a une réalité spirituelle, elle a une réalité historique très importante. Et on remarque que pendant 75 ans, cette affaire de colonisation de la terre arabe palestinienne est une affaire sur le plan international, car elle influence tous les conflits dans le monde. C'est-à-dire, si on revient sur l'histoire de 75 ans, on va retrouver que tous les conflits dans le monde ont un lien avec le sionisme international, ont un lien avec la colonisation de la terre palestinienne. Donc, d'abord, saluons le courage du peuple palestinien qui résiste face à l'oppression sioniste, mais surtout face à l'oppression occidentale à leur tête, les États-Unis. Deuxième chose importante à évoquer pendant cette célébration, c'est la responsabilité de la Grande-Bretagne. Les Anglais sont les premiers responsables de cette catastrophe. C'est eux qui ont cherché, avec les Français, à donner un foyer, soi-disant, pour les Juifs du monde et à coloniser donc, la terre palestinienne par les Blancs. Je m'excuse de parler comme ça, mais c'est ces Blancs, ces Occidentaux qui sont venus de la Russie, de la Pologne, de l'Allemagne, de la France, etc., pour coloniser la terre palestinienne. Donc ce n'est pas une affaire entre musulmans et juifs, c'est une affaire entre l'oppression occidentale, l'impérialisme occidental et le peuple palestinien.
Oui, en effet, quand vous parlez, ce n'est pas un problème entre les musulmans et les juifs. Les juifs, les musulmans, les chrétiens ont toujours habité la Palestine ensemble. Il n'y a jamais eu de problème depuis en tout cas des centaines d'années, puisque la Palestine, Quds et ses lieux, et les lieux saints de ces territoires ont toujours existé dans les différentes présences monothéistes. Monsieur Luc Michel, comment voulez-vous dire en fait, par rapport aux organismes internationaux, malgré par exemple le fait que l'ONU est reconnue finalement aujourd'hui, après 75 ans, la journée de la Nakba, mais en sachant qu'aujourd'hui également il y a des attaques, toute cette semaine, depuis la semaine dernière, il y a des attaques sur les territoires palestiniens.
Mais tout simplement que le monde est entré dans un nouveau cycle géopolitique. Les Occidentaux ont perdu la direction du monde. Et évidemment, le colonialisme occidental en Palestine n'est plus accepté aujourd'hui par les peuples du monde. 1948, ça a été une catastrophe dans tous les sens du terme. On a créé à ce moment-là le mythe d'une terre sans peuple, alors qu'il s'agit d'une opération de nettoyage ethnique qui a pu débattre. Notamment le massacre de Deir Yassin, ce village palestinien qui était massacré et occupé par les colons sionistes. Voilà, aujourd'hui, c'est terminé. C'est un cycle géopolitique qui s'est terminé. Avec l'invasion de l'Ukraine aujourd'hui, le monde n'est plus occidentalisé.
Merci, Monsieur Luc Michel. Monsieur Amrouni, on a entendu à plusieurs reprises l'Iran s'exprimer concernant l'ONU en disant l'ONU a déçu sur la question palestinienne. Avant, on disait ça tout bas. L'organisation de l'ONU a souvent été critiquée ces 20-30 dernières années, notamment sur la question palestinienne, mais pas seulement. Souvent jugé comme un outil, mais à l'heure actuelle, l'Iran est allé un peu plus loin dans son discours diplomatique en disant « l'ONU a déçu ». Cette fois, c'est officiel, on le dit, on l'indique haut et fort. Il déçoit sur la question des droits humanitaires, des droits de l'homme. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que c'est un jugement positif pour la cause palestinienne qu'un pays exprime directement et attaque directement l'ONU pour sa responsabilité de ne pas prendre parti?
Bien sûr, vous savez que depuis la victoire de la révolution islamique en Iran, la résistance palestinienne est rentrée dans un nouvel ère. Et on voit depuis 44 ans l'importance de cette résistance, l'organisation de cette résistance et l'importance de cette résistance qui grandit jour après jour. Donc la révolution islamique en Iran a amené, si vous voulez, un grand soutien à tous les résistants de la région, mais surtout à la résistance palestinienne. De ce fait, la résistance palestinienne, elle est arrivée donc à conquérir des territoires, elle est arrivée à mettre en place des stratégies de défense et de stratégies d'attaque. Ce que montre aujourd'hui la jeunesse palestinienne, il faut rappeler que les martyrs palestiniens, tous les jours, il y a des martyrs palestiniens depuis 75 ans, mais aujourd'hui, la force tactique, la force stratégique de la résistance palestinienne et la résistance de la région a changé. Et comme elle a changé, donc elle a changé la face du monde. C'est ça ce que je veux dire par là, qu'aujourd'hui le centre du combat contre l'impérialisme dans le monde se trouve en Palestine. Et donc la République islamique iranienne, l'État iranien, les représentants de l'État iranien, ils ont toujours dit qu'au centre de leur politique étrangère se trouve la cause palestinienne. La cause palestinienne, ce n'est pas simplement une tactique politique pour la République islamique iranienne, c'est une stratégie importante pour toute la région. Et donc, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, la République islamique iranienne elle-même donc, elle a acquis une importance stratégique régionale et mondiale avec ses alliés, la République populaire de la Chine et la Fédération de la Russie, et bien d'autres États musulmans et non musulmans. Aujourd'hui, le monde change dans le bon sens, et donc l'ONU ne représente plus la vraie volonté des peuples. Et donc, on va voir, peut-être dans les mois prochains, les années prochaines, une nouvelle restructuration de la représentation de la volonté populaire. Et donc, l'Iran, en tant que nouvelle puissance régionale et nouvelle puissance de libération, c'est ça ce qu'il faut indiquer, c'est la puissance révolutionnaire qui libère les peuples, que ce soit la Palestine, en Palestine, mais ça peut être aussi en Amérique latine ou même au fond de l'Afrique. Donc aujourd'hui, la révolution islamique iranienne représente la voix des peuples.
Merci, Monsieur Amrouni. Monsieur Luc Michel, on a vu également des organismes au sein même de l'entité sioniste attaquer donc les lois anti-humanitaires d'Israël. On se rappelle de la situation des prisonniers, on se rappelle également de la légalisation de la destruction des biens meubles et immeubles. Ces organisations qui sont pourtant juives et sionistes présentes sur le territoire israélien ont été déclarées comme étant antisémites. Est-ce que maintenant le mot antisémite a une véritable valeur? Parce qu'à l'heure actuelle, on donne le mot antisémite pour absolument tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez vraiment, monsieur Amrouni, on avait parlé, c'est pas vraiment une question entre musulmans et juifs, c'est une question juste de droits humains?
Non. À part pendant la période des croisades, juifs, chrétiens, musulmans ont cohabité sur la terre palestinienne. Mais depuis la victoire du nouvel ordre mondial à la chute de l'Union soviétique en 1991, le terme sioniste, anti-sioniste a été assimilé abusivement au terme antisémite. Moi-même qui suis anti-sioniste et pas antisémite, je suis régulièrement accusé par les médias occidentaux d'être opposé aux juifs, etc. C'est totalement faux. Évidemment, ce sont des choses inacceptables. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'ai déjà dit au début de cette émission, On est plus aujourd'hui dans un monde dominé par l'Occident. 85% des peuples du monde s'opposent à la domination mondiale par le bloc américain non occidental. La soi-disant communauté internationale, c'est 1,5 milliard d'individus sous la direction des États-Unis et d'Israël. Mais les peuples du monde, l'Organisation de coopération de Shanghai, par exemple, qui est 1 milliard d'hommes et de femmes.
Merci, Monsieur Luc-Michel. Monsieur Ambruni, on a vu malheureusement la situation entre la Palestine et Israël sortir donc des territoires. On voit bien que dans les pays du monde entier, on prend parti. C'était vous-même vos propos tenus au tout début du débat. On a vu également, malheureusement, à cause de la question et de la réaction israélienne, la haine des Juifs parmi les peuples du monde entier, parce qu'il y a confusion, bien entendu, entre Juifs et sionistes du fait des médias israéliens. Ce n'est pas dû aux autres médias, ce sont bien les médias israéliens qui font la confusion entre juifs et sionistes. Est-ce que finalement Israël, qui s'était censé représenter un État pour les juifs après la Seconde Guerre mondiale, est devenu l'ennemi premier des juifs finalement?
Vous savez, il faut faire un rappel historique. Les vrais fondateurs de l'État sioniste, c'est des laïcs anti-religion. C'est-à-dire, ceux qui ont créé l'entité sioniste, ils étaient contre la religion juive, ils étaient contre l'islam, ils étaient contre la chrétienté. Et c'est des ferveurs laïques depuis fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Donc les fondateurs réels du sionisme ne sont pas religieux. Et c'est pour cette raison le sionisme ne représente pas la religion juive. Et de toutes les façons, malheureusement, comme vous l'avez dit, les médias sionistes ont tout fait pour rendre le sionisme comme une théorie de libération du peuple juif. Il faut rappeler aussi que les juifs en Europe, ils étaient maltraités par les nazis, par les Français, par les Anglais. Donc ceux qui ont maltraité les juifs, aujourd'hui, ils essaient de nous dire que c'est ceux qui protègent les juifs. En fait, ils n'ont rien protégé, ils ont mis la question juive dans la question sioniste. Et aujourd'hui, 75 ans après, et grâce à la lutte du peuple palestinien, on assiste à deux choses importantes. On assiste à la fin du sionisme, donc on le voit, la crise politique, la crise culturelle, la crise spirituelle du peuple juif, et on assiste à la naissance de la nation palestinienne. Et permettez-moi de le dire, l'imam Khamenei a bien dit une fois, il le dit tous les jours, c'est-à-dire laisser le peuple de la Palestine, que ce soit des juifs ou des chrétiens ou des musulmans, décider de leur état, c'est-à-dire un référendum pour tous ceux qui habitent la Palestine. C'est la seule solution. Il n'y a pas de solution de deux états, un état juif et un état palestinien. La seule solution, c'est un référendum où le peuple qui habite la Palestine choisissent leur gouvernement. Donc aujourd'hui, 75 ans après, c'est vrai, c'est une date triste en 1948, mais en 2023, ce n'est plus une date triste. Au contraire, on assiste à la fin du sionisme et à la naissance de la nation palestinienne.
Merci, M. Ambruni. M. Luc-Michel, vous êtes d'accord avec les propos tenus par M. Ambruni, comme quoi on arrive à la fin de l'entité sioniste? Certains disent que ça ne dépassera pas les 80 ans, donc là ça fait 75 ans. D'ici 5 ans, on pourrait voir la fin de cet État illégal, fondé illégalement et ayant montré aucune humanité pour les peuples vivant déjà sur les territoires.
Je citerai Churchill qui disait que 1940 était le commencement de la fin. Je ne crois pas une disparition rapide d'Israël, mais je crois que cette disparition est programmée. Il y a une quarantaine d'années, dans les années 1980, il y a eu un grand débat entre historiens israéliens. C'était un parallèle entre Israël et les États francs des croisades en Palestine entre l'an 1000 et l'an 1300. Ces États ont fini par voir leur population rejetée à la mer. Les historiens israéliens prévoyaient le même destin pour Israël. C'est cela, évidemment, le destin historique de ce colonialisme occidental en Palestine.
Merci, M. Luc-Michel. M. Ambruni, on ne peut pas parler de la Palestine sans parler de la Ligue arabe, surtout que récemment, la Ligue arabe s'est montrée extrêmement occupée, extrêmement occupé à refaire les relations diplomatiques avec certains pays qui n'en avaient plus. On pense au Qatar, on pense à l'Arabie Saoudite, on pense à la Syrie, au Bahreïn ou encore au Yémen. Beaucoup de choses sont en train de se passer ces dernières semaines. On entend beaucoup de voyages diplomatiques entre les ministres des Affaires étrangères de différents pays arabes. Est-ce que c'est de bon augure pour la question palestinienne ?
Oui, normalement, c'est au centre. La question palestinienne, elle est au centre de la Ligue arabe. La Ligue arabe d'aujourd'hui ne sera pas la Ligue arabe il y a 40 ans. Le rapprochement, il faut le dire, le rapprochement entre les deux grandes puissances musulmanes dans le monde et les deux grandes puissances au niveau énergétique, au niveau du monde, c'est-à-dire la République islamique d'Iran et l'Arabie saoudite, va créer, si vous voulez, cette énergie positive pour ramener des relations de stabilité entre les pays arabes du Golfe Persique, d'une part, et la République islamique d'Iran, mais aussi avec l'Égypte, l'Irak et la Syrie, et il ne faut pas oublier la Turquie. Donc on est dans un autre schéma aujourd'hui. Il faut que les responsables des pays du Golfe Persique, arabes, iraniens, turcs, retrouvent cette relation, quelle qu'elle soit, entre États ou entre peuples musulmans, pour mettre une stratégie de libération pour le peuple palestinien. Et c'est pour cette raison, la crise réelle dans l'entité sioniste, c'est une crise réelle, c'est-à-dire c'est une crise à l'intérieur de l'entité sioniste, mais c'est une crise autour de l'entité sioniste. Et donc c'est ça qui change, c'est que le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite d'une part, et entre l'Iran et la Turquie, mais aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, donc il y a toute la partie Irak et la Syrie, va changer positivement pour aider le peuple palestinien et pour stabiliser la région du monde arabe. Donc, bien sûr, cette réunion à Riyad, peut-être le président syrien il sera, peut-être non, mais de toutes les façons, on va vers une stabilité régionale et on va vers un rapprochement réel, je veux dire, ce n'est pas simplement diplomatique ce qui se passe entre l'Iran et l'Arabie saoudite, ça sera économique, ça sera culturel, mais surtout, il va être spirituel. Et donc, bien sûr, l'Occident va tout faire pour nuire à cette nouvelle stratégie entre la République islamique d'Iran et le monde arabe dans le Golfe Persique ou avec l'Égypte et les autres. Je n'ai pas évoqué l'Algérie, parce que l'Algérie aussi joue un rôle très important aujourd'hui dans la politique arabe et la politique africaine. Donc il y a une renaissance, si vous voulez, une nouvelle vague d'énergie positive au niveau géopolitique. Est-ce que l'Iran, la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Algérie et l'Égypte vont réussir à mettre de la stabilité? J'espère que oui, mais les Américains, les Anglais et les Israéliens, ils vont tout faire pour nuire à cette nouvelle donnée stratégique dans notre région.
Merci, M. Amrouni. M. Luc Michel, en quelques mots, on a presque fini le temps du débat. On sait que vous êtes connu pour être, si je puis dire, un anti-système. Beaucoup ont critiqué l'existence de la Ligue arabe, indiquant que c'était qu'un outil ou tout simplement une manière de percevoir les choses, mais qui était fausse. Est-ce que vous pensez que dans les années à venir, la Ligue arabe va avoir un véritable pouvoir de décision sur la région ?
Oui, parce que le problème, c'était l'alliance des Américains. Avec les Samoudiens, en 1945, on a appelé les accords du Riyad-Sekinti, en 1945. Voir aujourd'hui Riyad s'éloigner de Washington, c'est évidemment une révolution, je vous l'ai dit. Et tout ceci nous explique que la source des conflits, la source des divisions, ce n'est pas les Samoudiens, mais les Américains, avec leurs alliés israéliens au Proche-Orient. Aujourd'hui, c'est un Proche-Orient unifié. Et le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie, je vous dis, dans des conséquences, il serait incalculable.
Merci, Monsieur Luc Michel. C'est ici que se finit donc notre débat. Merci, Monsieur Amrouni, pour votre participation à ce débat. Monsieur Michel, encore une fois, merci également à vous, tous deux se trouvant à Bruxelles et à Paris. Nous, c'est ici qu'on se dit au revoir sur le sujet donc de la Nakba. Cette semaine, on célèbre ce triste anniversaire du 75e. La 75e année. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet du débat, ici, dans les studios de Presse TV, dans la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir.
la voix de la lumière.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Louange au prophète de la paix et de la clémence, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, nous vous présentons la lecture, la traduction et l'exégèse des versets 79 à 84 du chapitre 43 du Noble Coran, la Sainte Sourate Al-Zukhruf, l'ornement. Restez avec nous jusqu'à la fin de la Voix de la Lumière d'aujourd'hui. Dans notre dernier programme, nous avons lu ensemble des versets de la sourate 43 qui nous ont appris qu'il n'y a dans le paradis que des joies et les délices pour les croyants qui ont mérité la récompense divine. Les hommes et les femmes qui ont mené dans ce bas monde une vie pleine de foi et de vertu retrouveront dans le paradis leur épouse ou leur époux. Ils s'y partageront ainsi les plaisirs du paradis. Les pieux qui se sont abstenus pendant leur vie terrestre des désirs matériels éphémères seront récompensés par le Seigneur de tout ce que l'âme désirerait. Le noble Coran souligne que les croyants et ceux qui s'étaient soumis à la volonté de Dieu Tout-Puissant, resteront éternellement dans le paradis. Si les pieux et les croyants seront logés dans le paradis, les mécréants et les pécheurs seront condamnés dans l'autre monde à demeurer éternellement dans l'enfer. Ils y resteront dans le regret et le désespoir, et leur châtiment ne sera pas interrompu. Les condamnés demanderont aux gardiens de l'enfer de dire à Dieu de les tuer, mais celui-ci leur répondra qu'ils resteront éternellement dans l'enfer, parce qu'ils s'opposaient à la vérité et la détestaient. La condamnation à demeurer éternellement dans l'enfer est donc le résultat de leurs mauvais actes et de leur désobéissance pendant leur existence sur la terre. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, écoutons d'abord les versets 79 et 80 de la Sainte Sourate Al-Zukhruf, l'ornement. Puis nous vous en donnerons la traduction.
أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ
Ont-ils pris quelques décisions entre eux, car c'est nous qui décidons? Ou bien escomptent-ils que nous n'entendons pas leurs secrets ni leurs délibérations? Mais si, nos anges prennent note auprès d'eux. Le Coran souligne que les mécréants rejetaient l'appel divin et qu'ils se réunissaient pour comploter contre Dieu et les croyants. Ils s'imaginaient qu'ils seraient capables de vaincre la vérité et de s'opposer à la volonté du Seigneur. Or, le Coran souligne que Dieu connaissait toutes leurs conspirations secrètes. Ces versets nous apprennent que toute décision émanant des humains ne peut se réaliser en dehors de la volonté de Dieu, le Très-Haut. Les gens qui s'opposent à la vérité divine et à la volonté du Seigneur croient parfois que Dieu ignore ce qu'ils conspirent en secret. Or Dieu est omniscient et omniprésent et il sait tout. Voici maintenant les versets 81 et 82 de la Sainte Sourate Al-Zukhruf, l'ornement.
قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون.
Dis, si le tout miséricordieux avait un enfant, alors je serais le premier à l'adorer. Gloire au Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur du trône. Il transcende de ce qu'ils décrivent. Dieu le Très-Haut dit à son noble messager, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, de s'opposer à ceux qui prétendaient que Dieu aurait des enfants, en disant que s'il en avait été le cas, il aurait été le premier à l'adorer. Le Coran souligne dans de nombreux versets que Dieu n'a pas besoin d'enfants, et ce d'autant plus que le fait d'avoir des enfants est une limitation dans le temps et dans l'espace. Ces versets nous apprennent que lorsque nous avons affaire aux gens qui s'opposent à la foi et à la religion, nous devons essayer de démontrer que les faux arguments qu'ils avancent pour affirmer leurs idées se tournent toujours contre eux. Dieu le Très-Haut n'a besoin de rien. Il est pur et la source de la pureté. Il est donc impossible de le comparer avec les êtres humains. Écoutons enfin les versets 83 et 84 de la sourate 43 du noble Coran.
فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ.
Laisse-les donc s'enfoncer dans leur fausseté et s'amuser jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour qui leur est promis. C'est lui qui est Dieu dans le ciel et Dieu sur terre, et c'est lui le sage, l'omniscient. Dieu le Très-Haut dit à son noble messager de laisser les égarés se perdre dans leurs fausses idées jusqu'à la fin du temps. En réalité, le Coran souligne que la mission des messagers se limitait à la guidance et que le choix appartient finalement à chaque individu de répondre ou non à l'appel du Seigneur. C'est ainsi que chaque individu devient responsable lui-même de ses pensées et de ses actes devant le Créateur. Ceux qui resteront dans leur égarement en verront donc le résultat au jour du jugement dernier. Ces versets nous apprennent que les messagers de Dieu ont la mission de guider les gens sans jamais pouvoir les contraindre à se soumettre de force à la religion, car la foi doit être le résultat d'un processus libre. Dieu le Très-Haut n'a besoin de personne. Il n'a donc nul besoin de l'adoration de ses créatures. Chers auditeurs, ici s'achève la voix de la lumière d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse d'autres versets du chapitre 43 du noble Coran, la Sainte Sourate Al-Zukhruf, l'ornement. D'ici là, nous vous confions toutes et tous à la garde de Dieu. Chers auditeurs, vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.